en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Bernard Bourgeois, normalien, agrégé de philosophie, grand universitaire, probablement le plus grand spécialiste français de la philosophie de Hegel. Il est également, entre autres responsabilités, membre du conseil d'administration de la Fondation Ostadelei, fondation qui a pour objectif de favoriser la solidarité entre les hommes, donc en développant une réflexion très pratique sur les dimensions éthiques et spirituelles de notre démarche. J'ajouterais que Bernard Bourgeois a été élu le 2 décembre 2002 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section philosophie, au fauteuil laissé vacant par le décès d'Olivier Lacombe. Bernard Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Bernard Bourgeois, le moment essentiel ?
Écoutez, je crois que d'une façon générale, même si des événements peuvent être à l'origine d'un retournement, voire d'une conversion, par exemple dans la carrière, ils ne le sont jamais directement, mais toujours à travers la réaction de l'homme à ces événements, puisque les choses n'agissent pas sur l'homme comme une cause produisant un effet, mais comme une stimulation qui induit une réaction, laquelle implique toujours un moment d'initiative ou de nouveauté. Et donc je crois que ce qui peut modifier, ce qui peut orienter différemment une carrière, comme tout autre domaine de l'existence, c'est une décision, c'est-à-dire la réaction à une situation générale est, dans mon cas, la décision qui a imprimé sa spécificité à ma carrière. Ça a été celle par laquelle je me suis résolu à concilier, en une certaine mesure, la démarche philosophique du côté du sujet et l'intérêt pour le monde, l'existence, pour la vie dans ses aspects les plus concrets, et cette réconciliation de la philosophie et de la vie ou du monde. J'en ai vu une illustration exemplaire chez celui qui a été mon philosophe d'élection, je veux dire Hegel. Hegel, dont le thème est qu'il y a un lien intime entre le monde et la philosophie, eh bien, j'ai essayé à mon tour, en pensant à partir de Hegel, sinon constamment à travers Hegel, j'ai essayé donc à mon tour de réfléchir sans jamais perdre de vue que la philosophie est quand même orientée vers la détermination, l'élévation, etc., de l'existence et de la vie. Et je considère que, en 200 ans, le monde, en ses aspects, d'abord, en particulier, est d'abord objectif. Le monde dans sa réalité sociale, technique, politique, le monde peut être pensé encore à travers les catégories hegeliennes, et dans ses aspects les plus avancés, je pense que c'est encore la pensée hegelienne qui est le plus adéquate dans l'essai qu'on fait de le maîtriser. Par conséquent, Hegel m'a permis de mieux réaliser ce qui était, au fond, le projet de tout philosophe, à savoir philosopher, mais toujours en prise sur le monde dans lequel on vit.
Alors ça nous amène directement à la seconde question. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui, Bernard Bourgeois, sur votre domaine d'activité, donc à savoir la philosophie et l'enseignement de la philosophie?
Oui. Alors, je vais répondre à cette
égale,
question.
Égal, c'est
non,
ça
Non. L'enseignement de la philosophie...
Que je rappelle que vous avez été 26 ans professeur titulaire.
J'ai fait mon premier cours au lycée avant mon service militaire en 1954, et j'ai fait mon dernier cours à la Sorbonne, à Paris 1, en 1999.
C'est ça, mais titulaire...
45 ans.
C'est ça, mais titulaire, vous l'étiez à partir de...
72.
C'est ça, voilà.
Vous évoquez la philosophie et son enseignement.
Aujourd'hui, oui. Mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur la philosophie d'abord.
La philosophie a cette particularité que sa pratique, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la recherche, les chercheurs en philosophie, et sa réalité même, sa réalité en tant qu'objet d'enseignement, c'est la même chose. Enseigner la philosophie, parce que c'est la philosophie, c'est nécessairement enseigner en philosophe. Il y a une identité de ce que vous enseignez, de ce que vous faites.
Sauf si vous appelez Trissotin quand même, là il y a une distinction.
Bien sûr, il y a donc une unité profonde en ce qui concerne la discipline philosophique entre la recherche philosophique et l'enseignement de la philosophie. Ça ne veut pas dire que le professeur de philosophie doit enseigner sa philosophie. Et de ce point de vue-là, j'évoque la remarque de Bergson qu'il ne faut pas enseigner ce sur quoi on travaille en tant que philosophe-chercheur. Mais, Bergson a tout à fait raison, le travail exigé par l'enseignement de la philosophie et le travail de la réflexion philosophique elle-même sont un seul et même travail. Par conséquent, la philosophie et son enseignement, du fait qu'il y a identité entre le sujet enseignant, philosophant, et l'objet enseigné, la philosophie, ces deux aspects ne font qu'un. Alors, pour savoir ce qu'on devrait dire aujourd'hui sur la philosophie, il faut faire un rapide bilan de la situation actuelle en philosophie. Alors, n'ayez pas peur, je vais être très bref. Je caractériserai l'exercice philosophique de notre époque, aussi bien envisagé dans son contenu, dans ce qui est enseigné, que dans sa forme ou dans sa pratique, la manière d'enseigner ce qu'on enseigne, la philosophie me semble être aujourd'hui essentiellement un discours sur les phénomènes, en toute leur variété, toutes les modalités de l'existence, la philosophie existentielle en est l'illustration, mais les exigences de la rhétorique philosophique classique, l'exigence d'une argumentation rigoureuse, un discours susceptible, par sa rigueur et sa clarté, d'être universalisé, d'être reçu aisément par le public auquel on s'adresse, l'exigence de l'argumentation philosophique est une exigence qui me semble moins respectée qu'elle ne le fut à l'époque classique.
Vous voulez dire que cette philosophie-là, ou cette manière de pratiquer la philosophie, nous aide moins à vivre ?
Non.
Pour être très concret ?
Non. Au contraire, elle est même trop proche de la vie, et dans son objet, et dans sa forme. Elle est même trop proche de la vie pour pouvoir, au lieu de simplement la décrire, pour pouvoir la fonder et pour pouvoir la juger. Cette distance insuffisante fait que la philosophie actuelle, ce grand discours phénoménologique sur les phénomènes, et je pourrais l'exemplifier aussi bien en évoquant la philosophie phénoménologique que la philosophie du langage, car le langage, au fond, c'est l'apogée du phénomène, c'est l'apogée de la manifestation, c'est l'apogée de l'expression, et le langage philosophique, c'est l'apogée de cet apogée.
Vous voulez dire que le maître de la philosophie actuelle, ce serait Husserl, non ?
C'est Husserl, ce sont également les grands penseurs, enfin, ceux qui ont illustré ce qu'on appelle la philosophie analytique. Ricoeur s'est efforcé de concilier ces deux tendances. La tendance continentale, phénoménologique au sens strict du terme, ou serlienne, est la tendance analytique.
Mais lui était compréhensible.
Mais il était tout à fait compréhensible. Ça a été un homme dont la capacité d'écoute était absolument prodigieuse.
Vous étiez très proche de lui.
Il saisissait tous les frémissements de la vie intellectuelle et spirituelle de son époque. Ricoeur était dans une écoute prodigieuse de cette époque, d'où l'aspect d'abord descriptif de sa pensée. Le premier grand texte philosophique de l'Occident, je crois que c'est le poème de Parménide. Il a deux parties. Une première partie qui est une partie ontologique, Parménide affirmant l'identité de la pensée ou du penser et de l'être. L'être est. Et une partie, si je puis dire, mythologique, riche de tout le contenu du monde, mais qui, pour Parménide, est le lieu où on ne peut pas parler de vérité. Il me semble que la philosophie contemporaine a enseveli la première partie du Parménide sous la deuxième partie, et j'aimerais que la première partie retrouve tout son éclat. Donc, rappeler à la philosophie actuelle que l'autorité fondamentale, et c'est une expression de Hegel, c'est l'autorité de l'être. Hegel ici ne faisait que redire, et il l'a redit tout à fait consciemment, comme on a dit, Aristote et saint Thomas.
Oui. Mais quand vous dites cela, et que ça nous ramène à Hegel, c'est-à-dire qu'à un bout de la chaîne, il y a la raison, donc on trouve Hegel, et à l'autre bout de la chaîne, il y a la liberté, et on trouve Hegel aussi.
Bien entendu.
Dans les deux cas.
Bien entendu.
Qu'est-ce qu'il a apporté de spécifique ?
Hegel a concrétisé le kantisme dans la mesure où il s'efforce de surmonter la coupure que Kant affirmait entre l'intellectuel et le sensible, entre l'abstrait et le concret. C'est Hegel qui a vraiment fait de la philosophie son monde saisi par la pensée, et c'est pourquoi, lorsqu'on hegelianise, on est plongé tout de suite dans le concret, un concret dont je redis ce que je disais au début de cet entretien, un concret qui est encore le nôtre. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ce que Hegel dit de l'articulation souhaitable du social et du politique, à savoir une société ou la société civile, comme on le dit, qui soit libre et libérée en elle-même par l'autorité effective. À notre époque encore, la seule autorité effective, celle par quoi est l'abstention, son abstention est encore une activité, c'est la puissance de l'État. Une société civile libre, libérée en elle-même par un État suffisamment fort et conscient de sa force, elle réside dans l'adhésion des citoyens, pour se permettre, capable de se permettre, d'être libéral en ce qui concerne la vie socio-économique. Vie sociale qui obéit à deux principes. Un premier fondamental, la libre initiative, le libéralisme. Et un deuxième, mais qui ne peut venir qu'en deuxième, l'impératif qu'on appellerait aujourd'hui celui de la solidarité. Ce schéma, une société civile, libérale, mais solidaire, libérée au sein de lui-même par l'autorité politique suffisamment assurée d'elle-même pour pouvoir se montrer libérale, sa force réelle la dispensant de la manifester à tout instant dans un domaine qui n'est pas. Eh bien, c'est cela que notre époque s'efforce de réaliser. Elle n'a pas fait de progrès depuis Hegel. La parenthèse marxiste, qui était une négation du hegelianisme, s'étant niée elle-même.
Contrairement à tout ce qu'on dit. Quoi.
S'étant niée.
Vous avez toujours soutenu que Hegel était en fait profondément protestant et rien à voir avec Marx en fait, ou plutôt que Marx n'avait pas grand-chose à voir avec
c'est-à-dire
Hegel.
Marx,
c'est ça.
Marx, hein,
je schématise, mais c'est votre idée.
Vous avez raison. Marx, je crois, a été le seul disciple, le grand disciple de Hegel. Mais vous savez que le vrai disciple, c'est celui qui tue son maître. Ouais. Il a commis le parricide et ce parricide a consisté pour lui dans une contradiction extraordinaire. Il a nié le contenu hegelien. Le contenu hegelien a été nié, et ce contenu, pour le résumer, consiste à dire que la diversité, la différence, est le produit d'une différenciation de soi, de l'identité. Marx est parti, au contraire, des différences ou des individus. Il était atomiste depuis sa thèse, et on reste toujours l'homme de sa thèse. Ce qui existe d'abord, ce sont les individus. L'identité est le produit d'une identification. Donc, inversion par Marx du contenu hegelien. Mais Marx...
Mais en gardant la mécanique quand même de la dialectique.
Oui.
Ça, il l'a gardé.
Oui, il a gardé précisément la forme.
C'est ça. Hein.
La forme. Oui. Seulement, la dialectique obéit à un principe qui est celui-ci. L'identité se différencie d'elle-même et produit la différence. La dialectique, c'est l'autonégation de soi, de ce qui est, c'est-à-dire de ce qui est d'abord identique à soi et qui, finalement, se divise. Ça veut dire que chez Hegel, il y a une identité entre la démarche et le contenu. Marx a voulu dire un contenu anti-hegelien dans la forme même qui a été celle de Hegel et de la dialectique hegelienne. Cette contradiction ne pouvait pas ne pas éclater et se manifester. Et je crois que ça a été tout le drame de Marx et du marxisme, vouloir nier Hegel dans le contenu en gardant sa forme. Même si on a dit qu'on avait remis la dialectique sur ses pieds, en réalité, l'acte de pensée marxien et l'acte de pensée hegelien me semblent tout à fait identiques. Mais lorsqu'il y a une telle contradiction entre le contenu et la forme, ça introduit dans l'esprit une sorte de schizoïdie ou de schizophrénie. Et de ça, on meurt.
Oui, avec toutes les conséquences quasi-totalitaires et dans l'application de la démarche. Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, nous allons élargir les perspectives à votre regard donc, sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Bernard Bourgeois, l'idée essentielle, avec la part de jeu que ça implique,
bien sûr,
que vous aimeriez faire passer à ce propos?
Écoutez, c'est la suivante. On part de la situation actuelle. J'évoquais la situation actuelle de la philosophie et j'ai schématisé. Certains diront caricaturé, mais enfin, je n'hésite pas à le faire, même à être unilatéral. Ça permet la discussion et la contestation. Alors, quelle est la situation du monde actuellement? C'est un truisme de le dire. C'est la mondialisation. Avec ces deux aspects, le moi est pris de plus en plus directement dans le monde tout entier. Il n'est plus simplement livré à son milieu local, à son milieu national. Mais tout ce qui se fait, si vous voulez, aux antipodes, retentit sur les hommes, aussi éloignés soient-ils. L'homme, le moi, est pris dans le monde tout entier. Et à côté de cette prise de possession réelle de l'homme par le monde, il y a dans le domaine idéal ou idéal, dans le domaine de l'esprit ou de la pensée. Au contraire, le phénomène qui est celui de la présence immédiate du monde tout entier dans chaque esprit humain. Le premier aspect, l'emprise du monde sur l'individu, l'emprise réelle, c'est le développement de la communication au sens du commerce, et du commerce d'abord le plus abstrait, les échanges financiers, la finance. Et l'autre aspect, l'aspect idéal, le monde immédiatement pris dans l'homme, c'est ce qui est médiatisé par l'invention et la pratique et le développement de l'ordinateur.
Le numérique, quoi.
En un sens, donc, je suis pris dans un monde et je ne suis plus vraiment moi-même, je ne suis plus maître de mon destin, parce que ce qui a emprise sur moi est trop loin de moi. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire contre le tout.
Vous voulez dire qu'il y a une perte de liberté absence de maîtrise sur l'environnement?
Par absence de médiation.
Médiation.
De médiation. Si vous voulez, l'homme est mis face, finalement, à la totalité du monde.
C'est... Mais en même temps, ce que vous dites, vous parlez de la mondialisation de telle sorte à ce qu'on peut se dire qu'elle est à l'encontre de la tradition de la sagesse qui faisait qu'il y avait à la fois cette idée de regarder à l'intérieur de soi
et en même temps
d'aller à l'universel. Or, ce que vous dites là, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que la mondialisation est le contraire de l'universel. C'est ça que vous voulez dire?
Je vais vous me devancer un peu. Alors
non, mais je vais abonder
dans votre sens. Je parlais de l'autre aspect, l'aspect idéal, à savoir... Le monde tout entier en moi, tout de suite, par l'ordinateur. Chaque esprit peut se remplir immédiatement de tout ce qui se passe dans le monde. Mais là, c'est une emprise aussi forte que l'autre. Est-ce que je peux dire que j'ai, en accueillant à travers la communication, cette fois-ci pas commerciale, mais informatique, en accueillant en moi tout le monde, en manipulant l'ordinateur, est-ce que je peux dire que j'ai vraiment le monde en moi? Est-ce que je peux dire que je le possède? Est-ce qu'il est à moi parce qu'il est en moi?
Je crois. Permettez que je note. Est-ce qu'il est à moi parce qu'il est en moi? Je note.
Alors, je veux dire que l'aspect réel de la mondialisation, le commerce, l'aspect idéal ou idéal ou spirituel de la mondialisation, l'informatique, est-ce que ces deux aspects ne signifient pas par leur développement, en quelque sorte mécanique, machinal, comme un destin, ne signifie pas la perte par l'homme de sa liberté et de l'affirmation de soi. Je ne suis plus parce que je suis pris dans le monde, et je n'ai plus le monde parce que il est en moi, mais immédiatement, sans que je puisse le maîtriser. Alors, comment réagir à cela, de façon à que l'homme puisse développer toutes ses potentialités? On s'est dit, puisque la mondialisation socio-économique est finalement un pouvoir sans tête, un objet sans sujet, puisque personne véritablement ne la maîtrise, et que le lieu de la maîtrise de la vie collective, c'est la politique. Parce que la volonté générale, elle existe dans le domaine politique. Elle n'existe pas de même dans le domaine social, économique et financier. Alors, il faut essayer, pour juguler et maîtriser cette mondialisation sous la forme d'un destin, dans la vie qui écrase les subjectivités de l'objet économico-financier, il faut, pour juguler cette mondialisation impersonnelle, antipersonnelle, qui précipite des masses d'hommes dans la misère et la pauvreté, il faut constituer à la même échelle, à l'échelle du monde, un pouvoir politique unifié. D'où l'idée que seule une mondialisation politique, et d'abord continentale, par exemple à l'échelle européenne, que seule une mondialisation politique peut maîtriser la mondialisation déficitaire, puisque destinale et non pas volontaire, socio-économique.
Oui, mais ce que vous dites là est quand même un peu contrecarré par les réactions que l'on constate de repli communautariste et identitaire face à cette évolution, manière de se défendre.
Vous avez tout à fait raison, c'est ce qui fait la fragilité d'un tel projet. Un pouvoir universel, efficace. Par exemple, une unification d'abord continentale, européenne, de la vie politique. Et plus tard, si c'est possible, une unification mondiale de la vie politique exige que l'universel politique constitué soit un universel effectif, solidement ancré dans les choses, c'est-à-dire dans les esprits, à travers l'existence d'un sentiment, si je puis dire, national, étendu à l'échelle de l'univers, comme si les hommes se sentaient faire partie d'une unique communauté continentale ou mondiale pour pouvoir maîtriser à ce niveau ce qui, pour l'instant, reste un destin, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui n'arrivent pas à être maîtrisées. Mais dire qu'un pouvoir universel est un pouvoir effectif et fort, c'est dire qu'il est constitué par une communauté ou une collectivité qui ait conscience de son unité et qui la veuille. Une communauté dont le type, et il n'y en a pas eu d'autre jusqu'à maintenant, c'est la communauté nationale. Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Et j'évoque la chose, c'est un problème qui agite beaucoup les esprits actuellement.
Vous allez revenir à Renan, vous allez...
Oui, je vais revenir à Renan. Si vous voulez, à mes yeux, ce qui fait l'importance de la nation, de l'unité nationale, c'est qu'on ne peut pas la définir par un caractère particulier. Staline s'en désolait, lui qui avait voulu réfléchir sur la nation. Bon, même le génial Staline, permettez cette ironie, n'y est pas arrivé. Aucun critère ne suffit. La langue. Une nation peut exister forte alors qu'il n'y a pas d'unité de langue. La Suisse, etc. La religion, une nation peut exister dans la multiplicité, la multipolarité religieuse. La nation est une unité qu'on n'arrive pas à définir par des caractères particuliers. Ça veut dire qu'elle est indéterminée. Ça veut dire que l'unité nationale existe même si tel ou tel caractère particulier n'est pas commun. C'est son indétermination qui fait sa force. Parce qu'elle ne peut pas être déterminée et définie, c'est précisément par là qu'elle apparaît comme une unité qui ne peut pas être contestée de manière définie, c'est-à-dire à partir de l'affirmation d'un caractère particulier, c'est parce qu'elle est indéterminée qu'elle est absolue. Ça veut dire que les hommes ne peuvent réaliser leurs projets, qui peuvent être divers, leurs désirs, qui peuvent être divers, leurs croyances, qui peuvent être diverses, que dans une unité qui soit suffisamment forte pour qu'elle puisse leur assurer une paix, une coexistence, leur permettant de pouvoir réaliser leurs desseins fondamentaux. Ils peuvent n'être pas d'accord sur tout. Vous évoquiez Renan, mais Braudel dira la même chose plus tard. Que dans la nation, je suis d'accord pour continuer de vivre avec des gens qui sont des adversaires pour moi, que je n'aime pas. Je ne suis pas d'accord en eux, avec eux, en toute chose. Alors, me direz-vous, pourquoi ne pas se réunir simplement entre soi avec des gens qui sont d'accord sur toutes les choses ? parce qu'une telle unité pourrait être une unité insuffisamment forte, et l'histoire ici joue pleinement son rôle, elle pourrait n'être pas suffisamment forte. Une patrie peut n'être pas une nation, parce que la patrie, c'est toujours la petite patrie, et la petite patrie peut n'être pas suffisamment forte. Brodel disait, il y a des hommes de la nation et des hommes de la patrie. Il pensait que la nation était une réalité prioritaire et plus profonde parce qu'elle assure par sa force, elle assure à chacun la possibilité, même s'il coexiste avec des gens qui sont des adversaires, pas des ennemis,
oui,
lui permettre de réaliser ses desseins, ses projets, ses vœux essentiels. L'idéal, c'est que la nation devienne une patrie. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé une autre formule, si je puis dire, pour permettre la réalisation de communautés humaines solides. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait, s'il doit y avoir un universel politique efficace, il faudrait étendre à l'univers, et déjà peut-être au continent, par exemple européen, la formule nationale. Mais ça, c'est pas impossible, mais ça demande des siècles. D'ailleurs, l'histoire n'a jamais donné un exemple de nations solidement constituées qui se soient réunies pour en composer une qui a été une nation solide et subsistante. Tellement c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que les nécessités de l'époque sont des nécessités propres à cette époque que les autres n'ont pas connues. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si c'est possible, ça ne peut se faire que très lentement et c'est très précaire. Il faut être très prudent. En tout cas, je crois qu'il faut que, plus que jamais, plus qu'avant l'informatique, chacun des sujets soit formé en lui-même, et c'est le rôle indispensable ici de l'éducation et de l'école, en son intelligence naturelle, par des procédés permettant à chacun de maîtriser dans le temps de façon progressive, à travers des règles solidement acquises, de maîtriser la totalisation de la culture qui, autrement, le remplit, mais comme quelque chose qui le submerge. Plus que jamais, à l'époque de l'intelligence artificielle, il faut renforcer et cultiver l'intelligence naturelle. Et ça, c'est le rôle de l'école et de l'éducation.
Quatrième question de notre série L'Essentiel. Bernard Bourgeois, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Il y a un an, j'avais dit dans une conférence de Sorbonne que toutes les cultures ne se valaient pas. Mais j'avais pas ajouté, mais mis en exergue juste avant la proposition suivante. Tous les hommes se valent. Tous les groupes humains se valent. En tant qu'en chacun d'eux, l'homme, en toutes ses potentialités, ce pouvoir qu'il a de se dépasser à chaque fois dans ce qu'il est, pour s'élever à ce qu'il veut être et doit être, c'est-à-dire la liberté. Parce que la liberté, elle est au cœur de chaque homme et de chaque groupe humain. Tous les hommes, tous les groupes humains se valent, mais toutes les cultures ne se valent pas. Dire simplement, toutes les cultures ne se valent pas, sans faire précéder de l'affirmation de base, tous les hommes et tous les groupes humains se valent, cette abstraction fait qu'on peut soulever les questions et les discussions qui maintenant défendent la chronique.
Cinquième question de notre série L'Essentiel. Bernard Bourgeois, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
La liberté, c'est-à-dire l'homme, est le porteur de sa culture. Il est au-delà d'elle parce qu'il est en deçà d'elle. Ce qui est, me semble-t-il, très encourageant, c'est de voir que, quelles que soient les contraintes, parce que si une culture ne veut pas se réformer, c'est que certains en elle y ont avantage. Y ont avantage dans le sens d'une exploitation, quelle que soit la forme, par eux, d'autres qui vivent avec eux. Au fond, ce qui fait qu'une culture ne s'élève pas au-dessus de ses défauts, car toute culture en a, c'est qu'il y a une implication sociale de cette culture, c'est-à-dire des intérêts en jeu. Il n'en reste pas moins que l'histoire montre que même là où on s'y attendait le moins, le sentiment qu'a l'homme de sa liberté et de ses droits, ce sentiment est plus fort que tout. Et il finit par triompher. La liberté a donc un aspect négatif, enfin de révolte, de révolution, qui est essentiel. Et même si la révolution, les révoltes sont confisquées, parce qu'on veut remplir ce geste négatif de la liberté qui se révolte, de contenu à nouveau sélectif, inhumain, inégalitaire, l'exaltation que l'homme a connue en s'affirmant en sa liberté et en sa liberté politique, qui conditionne toutes les autres. Cette exaltation est, je crois, assez forte pour ne pas s'oublier, pour ne pas être oublié par ceux qui l'ont pratiqué, même si ce sursaut de la liberté est à nouveau confisqué par des formes, disons le mot général, de culture qui ne sont pas à la hauteur de la liberté, ce qui fait la valeur d'une culture. Ce qui fait qu'une culture, à certains moments d'elle-même, est meilleure que ce qu'elle a été à d'autres moments. Et qu'une culture, à certains moments d'elle-même, est meilleure que ce qu'une autre culture est à certains moments d'elle-même.
Sa relation à la liberté.
C'est qu'en elle, elle contribue à la libération de l'homme. Et je dirais qu'il y a un critère, à mes yeux, absolu, parce qu'il est formel, qui fait la valeur d'une culture. Une culture vaut d'autant plus qu'elle permet à ses adeptes de se libérer de tout et d'abord d'elle-même. Vous voyez, une culture qui oblige qu'on entre en elle. Forcez-les à entrer, a-t-on dit à une époque du christianisme. Forçons-les à entrer dans la religion. Et une culture qui leur interdit de sortir d'elle-même. On le dit aujourd'hui dans d'autres cultures, c'est la culture chrétienne.
C'est de la secte, ça.
Bon, non, mais ce sont des formes culturelles qui doivent être abandonnées et dont l'homme doit se libérer.
Alors, c'est bien parce que c'est vous. Je laisse de côté la question sur l'échec.
J'aime pas le narcissisme.
Donc, on la laisse.
Voilà.
Alors, quelle est aujourd'hui, Bernard Bourgeois, votre motivation essentielle dans la vie?
Écoutez, je viens de vous dire, je n'aime pas le narcissisme. Il est très difficile de dire quels sont les motifs qui nous conduisent. Il est plus facile et c'est plus important de définir les motifs qui devraient nous mobiliser et nous animer.
Ça, c'est une façon de fuir, ça.
Pardon?
C'est une façon de fuir, ça.
Oh, pas du tout. Dites.
Non, mais vous.
Non, vous évoquez quand...
Non, je voudrais une confession, là.
Non.
Vous trichez. Vous trichez.
Je vais vous le dire.
Non, on dirait Platon, la caverne et tout. Non.
Je vais vous le dire.
La réponse, vous.
Dis-moi quelle norme tu choisis et je te dirai qui tu es.
Mm-hmm.
Alors, la motivation, à mes yeux, qu'il faut choisir, est celle qui, dans tout ce que l'on fait, permet d'avoir le respect de soi-même, de se respecter soi-même en respectant les autres. Ou pour le dire autrement, c'est l'action qui nous permet de nous affirmer comme libres, et c'est ce qui fait qu'on peut se respecter. En libérant les autres, et c'est ce qui fait qu'on les respecte. Et que là, une excellente formule, être libre, c'est libérer les autres. L'affirmation première de la liberté, c'est un geste négatif, voyez. Transformer la passivité dans laquelle on est en une activité. Voyez, devenir responsable de son être. Dépasser l'empirisme, dépasser l'utilitarisme, dépasser un réalisme vulgaire. Bien sûr, il faut aller au-delà, mais cet au-delà n'est pas, me semble-t-il, essentiellement le royaume de la désunion, de la scission, de la folie, de la dispersion. C'est pour moi le royaume de l'un, le royaume de l'unité, le royaume d'une exigence que l'homme désigne par le mot « être » ou par le mot « absolu », qui fait que l'homme, se rattachant à cet appel de l'un en lui, se libère de la dispersion dans laquelle il est et peut, par conséquent, s'affirmer en sa liberté parce qu'il peut se reconnaître dans cet un et s'élever au-dessus de l'extériorité dans laquelle il est plongé d'abord. Mon choix est celui-ci. Je pense que c'est en affirmant en soi l'un, comme ce qui est au-dessus de soi, qu'on peut se réunir avec tous les autres. En d'autres termes, la réunion entre les hommes ne peut pas se réaliser à un niveau simplement horizontal, voyez, par le dialogue, par le consensus, par la discussion. Je suis partisan du dialogue, du consensus et de la discussion. Mais l'unification exige de la part de chacun de ceux différents qui veulent se réunir que chacun se mette en perspective sur un, quel qu'il soit. C'est en s'unissant avec cet un qu'il peut s'unir avec tous les autres. Retour à Parménide, si je puis dire, et je pense que à notre époque, où c'est le danger de la dispersion qui est le danger le plus grand, il serait bon, chez les philosophes d'abord, de revenir un peu à celui qui est notre père à tous, Parménide, à savoir affirmer l'antériorité et l'autorité de l'être dans toutes ses versions, et l'une de ses versions, c'est que l'être est un.
Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui Bernard Bourgeois, grand universitaire, philosophe, probablement et quasi certainement même le plus grand spécialiste français de la philosophie de Hegel. Bernard Bourgeois, qui a été, je le rappelle, élu le 2 décembre 2002, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bernard Bourgeois, merci.
C'est moi qui vous remercie. Alors, je suis désolé d'avoir été si bavard.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.